Bonjour, c'est Jake. Retrouvez-moi tout l'été en direct sur Fréquence Mistral. Les jeudis de 11h à midi pour l'émission de Parole Politicale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore sur l'émission de Parole Politicale. Tous les jeudis de 11h à midi, bien sûr, sur Fréquence Mistral. Moi, je m'appelle Jake et je serai avec vous pendant une heure de 11h à midi pour découvrir cette semaine le conflit nord-irlandais qui était du début par des fins des 60 jusqu'au 1998. L'émission elle-même serait aussi bien accompagnée de la musique sur les événements du conflit avec des artistes tels que Paul McCartney, U2 et Simple Minds entre d'autres qui vont faire featuring dans cette émission.
Parole politique tous les jeudis de 11h à midi avec Jake seulement sur Fréquence Mistral.
Donc il faut tout d'abord parler de l'indépendance de l'Irlande, parce que l'Irlande faisait partie du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande, donc un pays unifié, de 1801 à 1922. Il y avait un appel dans le sud pour Home Rule, qui était bien sûr opposé par le nord, et les deux côtés, le nord et le sud, ont commencé à agrandir le groupe de bénévoles vers 1913 pour se préparer pour une guerre civile. Mais la Première Guerre mondiale, qui était de 1914 à 1918, a différé le gars jusqu'à une date future. En 1916, par contre, avant que la guerre avait fini, le soulèvement de la part des républicains, comme on avait vu dans le Easter Rising au centre de Dublin, a recommencé la guerre et il commence à battre le pouvoir britannique. Puis, le 6 décembre 1921, des négociations entre le gouvernement britannique et les dirigeants nationalistes irlandais aboutissent au traité de Londres, c'est-à-dire qui fait que l'Irlande est partagée en deux, une dominion au sein de l'Empire britannique, c'est-à-dire l'Irlande du Nord, qui va rester partie du Royaume-Uni, et l'autre, c'était l'Irlande du Sud, c'est-à-dire the Irish Free State, état libre d'Irlande, qui elle, serait libre bien sûr, et ça s'est doté d'une constitution en octobre 1922. Donc, on a deux états qui ont créé des identités qui se basaient surtout sur la religion dominante dans la région respective, c'est-à-dire les protestants dans l'Irlande du Nord et les chrétiens dans le Sud. Mais ce qu'il faut savoir, c'était qu'un tiers de la population d'Irlande du Nord était chrétien. Donc, ils ont subi des exclusions des processus politiques, par exemple le droit de vote, et aussi la discrimination sur le logement public et du travail, parce qu'ils ont été minoritaires.
If someone could hold you now, if fate could play a different hand, and if all the broken hearts could be fixed, not torn apart. Watching shadows on the wall, some questions are impossible. And does God make a fool of us all? Watch the skies as sadness falls. Bits of me don't exist anymore. I can't replace what's been and gone. Cars and bits of silhouettes. By some time I learn to soon for you, memories left to date and bruise. No control wish I knew more about your fears. If I could, your eyes I would kiss and fill up your time with laziness. Let's declare an amnesty, ambition's dead for all to see. Shake your fists, we've grown too fast. Help me love and hold me close. Twist and turn so wonderful. Break your bones, I'm coming home. If someone could hold you now, if someone could hold you now.
Alors, comment le conflit avait débuté dans l'Irlande du Nord? En fait, il y avait la marche des droits civiques en Londonderry. Cette dada s'était inspirée par les mouvements des droits civils dans les États-Unis, comme on avait vu dans l'épisode 3 que j'avais fait, c'est sur les lignes fréquence Mistral. Et la marche a été organisée avec le support de l'Irlande du Nord, de Northern Ireland Civil Rights Association, l'association des droits civils de l'Irlande du Nord. Et c'était une organisation chrétienne. Au lieu de protester pour des discriminations envers la majorité chrétienne par les autorités unionistes en Londonderry. Donc ils sont pas très contents avec les droits civils. Le 5 octobre 1968, en Derry, la police, the Royal Ulster Constabulary, donc eux ils sont plutôt protestants, unionistes, ils veulent rester dans la Grande-Bretagne, dans le Royaume-Uni plutôt, et ils ont essayé de disperser ce mouvement chrétien. Mais quand ils ont attaqué le mouvement, ils se trouvent sur l'autre côté de la rivière, c'est-à-dire dans le quartier de Bogside, c'est un endroit chrétien. Et dans la suite, on voit une bataille entre la police et les résidents de Bogside qui n'ont eux-mêmes pas participé dans la marche, mais c'est une des premières fois qu'on voit le conflit entre les chrétiens et les protestants.
When apples still grow in November, when blossoms still bloom from each tree, when leaves are still green in December, it's then that our land will be free. I wander her hills and her valleys, and still through my sorrow I see a land that has never known freedom, and only her rivers run free. I drink to the death of her manhood, those men to live in the cold chains of bondage, to bring back their rights where denied. Oh, where are you now when we need you? What burns where the flame used to be? Are you gone? Like snow
snows of last winter, and will only our rivers run free. Is life, but we're crying. How mellow the wine, but it's dry. How fragrant the rose, but it's dying. How gentle the breeze, but it sighs. What good aging, what joy is in eyes that can't see, when there's sorrow in sunshine and flowers, and still only our rivers run free.
C'est une chanson de Mickey McConnell. Il était écrit par lui et c'était chanté dans cette version par Wolf Tones. Et la chanson s'appelle Only Her Rivers Run Free. Donc, Mickey McConnell, l'écrivain, il est né en 1947 et c'est un musicien irlandais influencé notamment par ce conflit, le conflit nord-irlandais. Ce n'est même pas la seule chanson qui traite ce sujet. Conflit. Il y a d'autres aussi. Une c'est Follow the Flag ou encore The Little Drummer Boy. Donc, parlons de la réaction internationale suite à cette conflit qu'on avait vu à Bogside. Donc, la réaction c'était qu'il y avait beaucoup de problèmes à l'intérieur de l'Irlande du Nord et tout le monde, c'était dans tous les journaux. Du coup, au niveau international, il y avait beaucoup de connaissances autour du conflit qui s'est passé en ce moment. Il y avait aussi des conséquences, par exemple, plus des émeutes, des démonstrations et des contre-démonstrations au niveau local. Donc, on va dire que la feu s'allume, la feu s'agrandit en même temps. Et c'est ce conflit qui a vraiment était symbolique pour le début du conflit, ce qu'on va voir de suite. Maintenant, l'intensification du violence et de l'intervention britannique, ça va venir juste après. Donc, c'était durant l'été de 1969. Donc, comme on avait dit, il y avait les émeutes qui deviennent de plus en plus fréquentes, surtout dans les villes de Londonderry et Belfast, le capitale de l'Irlande du Nord. Et c'est un période qui a eu aussi beaucoup vu les premières morts du conflit. Un des événements monumentaux a été les émeutes à Bogside pendant les marches des Apprentice Boys. C'est une fraternité protestante. Pendant les deux jours consécutifs, la violence a provoqué du violence dans toute l'Irlande du Nord et la police qui était chargée, c'était The Royal Ulster Constabulary, n'a pas pu reprendre l'ordre. Et donc, le gouvernement fait appel aux forces britanniques, à l'armée britannique, d'intervenir pour essayer de calmer la situation. Donc, initialement prévu comme une opération courte, Operation Banner deviendra la plus longue campagne dans l'histoire de l'armée britannique et finit seulement en 2007. On va jouer maintenant une chanson de Simple Minds, elle s'appelle Belfast Child.
When my love
said to me, meet me down by the gallows tree, for it's sad news I bring about this old town and all that it's suffering. Some say troubles abound, someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast child sings again. Brothers, sisters, where are you now? As I look for you right through the crowd. All my life here I've spent with my faith in God and church and the government. Some say troubles soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast child sings again. When the Belfast child sings again.
Simple Minds, le groupe écossais avec leur titre Belfast Child. Aussi, il faut savoir que dans cette vidéo musicale qui était sortie pour la chanson, c'était filmé en noir et blanc parce que c'était symbolique pour décrire le malheur et les privations des enfants de Belfast suite à ce conflit. Donc, vers le fin des années 69, on voit apparaître des zones no-go, donc des zones interdites, qui ont été établies aussi que les murs de paix dans Belfast et Derry pour essayer de séparer les deux côtés les protestants et les catholiques. On voit aussi une grande migration de la population pour former des endroits exclusivement protestants ou chrétiens, ce qui polarise non seulement le peuple, mais aussi des opinions et des attitudes. Donc tout ça, ça fait partie de l'opération de l'armée britannique Operation Banner. Avec l'intervention de l'État britannique aussi, il y avait le groupe, le IRA, le groupe nationaliste, donc pro-chrétien, pro-Irlande, et c'est une organisation terroriste selon le gouvernement britannique qui s'est accordé le droit d'utiliser les armes contre l'armée britannique avec une campagne de bombardement pendant les années 70, 80 et 90. Pour contrer cela, en fait, il y avait des groupes protestants aussi, des paramilitaires tels que Ulster Volunteer Force et the Ulster Defence Association, qui ont aussi fait une campagne de bombardement contre les nationalistes sur les rues d'Irlande du Nord. C'était aussi bien reçu au début par les nationalistes pour rendre la paix, donc l'armée britannique, ils sont accueillis par les deux côtés, par l'Irlande du Nord et aussi par l'Irlande elle-même. Mais elle devient beaucoup moins appréciée avec les efforts de les armées après des Falls Curfew de juillet 1970 et surtout avec les groupes paramilitaires républicains qui les aimaient pas depuis les débuts.
Parole politique tous les jeudis de 11h à midi avec Jake, seulement sur Fréquence Mistral.
Donc, parlons aussi de ce groupe, le IRA, donc le groupe nationaliste. Après la formation, ils ont vu aussi une division. Donc, il faut bien savoir la différence. Donc, il y a une partie qui s'est formée, c'est le Official IRA, et l'autre, c'était le Provisional IRA. Mais le Provisional IRA, c'est ce qu'on va voir de suite, ils vont faire beaucoup plus apparaître dans l'histoire, et ils sont pas très provisionnels, ils sont plus permanents, on va dire. Mais c'était une division qui était à la base parce que la partie provisionnelle pensait que le groupe officiel ne protégeait pas assez les chrétiens contre le gouvernement nord-irlandais, etc., etc. Donc, pour répondre à l'agression, le gouvernement nord-irlandais a introduit cette notion de internment without trial, donc c'est l'arrestation sans procès, et il est en prison 2000 personnes entre 1961 et 1975. Donc plus de 90% de la population arrêtée, ils étaient républicains et moins que 10 étaient des loyalistes. Loyalistes, c'est-à-dire qu'ils sont avec le gouvernement britannique ou plutôt avec les protestants. Par contre, c'était vrai aussi que depuis le début, les provisionnels ont cherché à continuer la guerre irlandaise, la guerre d'indépendance d'Irlande. Et c'est un peu pour ça que c'était introduit. Et de plus, la République n'avait pas introduit l'internement. Donc, l'Irlande elle-même, elle n'a pas cette processus. Donc, ce qui mène beaucoup de unionistes, protestants, à dire qu'il soutient les paramilitaires républicains. Donc on voit déjà aussi des différences de partie des gouvernements du Nord et d'Irlande, qui sont eux, l'Irlande, ils sont plus, pas gentils, mais ils acceptent plus l'IRA que le Nord, qui essaie de bien le diviser, de le faire disparaître. Alors on va lancer la chanson la plus connue dans cette période, donc vous le connaissez certainement tous. chanson fameuse de U2, c'est Sunday Bloody Sunday. C'est une chanson du groupe irlandais de rock. Et c'est la chanson peut-être la plus connue pour cette période. C'était une des chansons les plus politiques aussi. Et les paroles, il décrit l'aura survécue par une observateur, dans cet incident en Londonderry. Donc, qu'est-ce que c'est Sunday Bloody Sunday? C'est de loin la pire année de violence entre... c'était la 1912, quand plus de 480 personnes ont perdu leur vie. L'année avait commencé avec Bloody Sunday, c'est dimanche sanglant, c'est en Londonderry. Et, le 30 janvier, c'était en marche contre l'internement, ce qu'on avait vu d'avant, et elle a vu 14 protestants, tués par l'armée britannique, sans provocation. Donc, elle donne beaucoup de pouvoir au Provisional IRA, qui augmente leur campagne et tue 100 soldats britanniques à la suite, et met en ruine les centres de Belfast et Londonderry avec les bombes dans les voitures. Notamment le vendredi sanglant, juste après, c'était le 29 juillet, avec 26 bombes simultanées, a aussi été un événement très symbolique et a tué 9 personnes et blessé 130. Donc, il faut pas oublier que les dimanches sanglants a augmenté la hostilité chrétienne et irlandaise contre l'armée britannique, qu'on avait dit qu'ils étaient bien accueillis au début. Maintenant, c'est beaucoup moins. Et ça aide aussi le recrutement du Provisional IRA, surtout au niveau local, parce qu'ils ont maintenant un événement qui est bien avec leur narration. Dans l'été de 1972, le Provisional IRA a cru qu'ils étaient dans la voie de victoire. Quand le gouvernement britannique avait ouvert des discussions avec le leadership. Mais dans la réponse, le IRA a appelé un cessez-le-feu, mais bien sûr aucun accord n'a eu lieu en ce moment parce que l'Irlande, le IRA n'avait pas voulu autre situation qu'une Irlande unifiée. C'est une chanson de Paul McCartney, et c'est même de lui et sa femme Linda McCartney. C'est en réponse aux événements de Bloody Sunday, et ça s'appelle Give Ireland Back to the Irish. Et ce qu'il faut dire même, c'était une chanson interdite complètement par les médias, notamment par le BBC, Radio Luxembourg et The Independent Television Authority, parce que c'était une chanson très controversée à l'époque où c'était sorti. Il faut bien que je donne une petite annonce, c'est que quand je dis IRA, ça veut dire l'IRA, en fait. Donc, c'est pour que vous sachiez de quoi je parle. On va maintenant parler de l'ulcerization et aussi les problèmes à l'intérieur des prisons et les manifestations de famine, bien sûr. Donc, c'était dans l'État britannique. Ils ont voulu montrer que les républicains et les nationalistes n'étaient pas en combat contre deux côtés, les Britanniques et les unionistes. Pour cela, ils cherchent à redonner le pouvoir aux polices URUC, c'est-à-dire ce qu'ils appellent l'ulcerization. Donc, c'est de remettre le pouvoir dans les mains de la police nord-irlandaise. Vers la fin des années, c'était le gouvernement britannique qui cherchait pour une solution à ce conflit. Donc, ils finissent ce qu'on appelle l'internment without trial de 1976. Mais les paramilitaires en arrestation sont traités comme des criminels et non des prisonniers politiques. Cela provoque bien sûr des problèmes à l'intérieur des prisons, car les républicains cherchent un statut de prisonnier politico, c'était mieux qu'être un prisonnier criminel. Donc ça les mène à refuser de se laver à la cellule, c'est-à-dire dirty protest, ou même de porter l'uniforme des prisons, blanket protest. Aussi le sommet du protest c'était the hunger strikes, c'était les manifestations de famine. C'était en 1981 où 10 prisonniers républicains menés par Bobby Sands se sont affamés à la mort pour une statue politique. Cet événement, bien sûr, met en motion encore le support pour le IRA dans la communauté nationaliste et même dans toute l'Irlande. Aussi, il faut dire, c'est la deuxième fois que ces événements qui se passent en Irlande du Nord attrapent l'attention, la vision des journaux internationaux, donc la pression politique va augmenter sur l'État britannique.
On Monday, the 9th of August, 1971, at 4:30 a.m., Irish men from all over the six counties were taken from their homes. Hundreds of these men were then imprisoned without trial in Longcaish concentration camp. This is a song born of the civil resistance campaign which followed internment. A song dedicated to those men in Longcaish who are still, more than 10 years later, the men behind the wire.
Armored cars and tanks and guns came to take away our sons, for every man will stand behind the men behind the wire. Through the little streets of Belfast in the dark of early morn, British soldiers came marauding, wrecking little homes with scorn. Heedless of the crying children, dragging fathers from their beds, beating sons while helpless mothers watch the blood pour from their heads. Armored cars and tanks and guns came to take away our sons, for every man will stand behind the men behind the wire. Not for them a judge and jury, nor indeed a crime at all. Being Irish means they're guilty, so we're guilty one and all. Round the world the truth will echo, Cromwell's men are here again. England's name again is sullied in the eyes of honest men. Armored cars and tanks and guns came to take away our sons. Every man will stand behind the men behind the wire. Proudly march behind our banners, firmly stand behind our men. We will have them free to help us build a nation once again. On the people, step together, proudly, firmly on your way. Never fear and never falter, till the boys come home to stay. Armored cars and tanks and guns.
The Men Behind the Wire, c'est une chanson écrite et composée par Paddy McGuire du groupe Folk Barleycorn, et c'était dans les répercussions de l'internement, c'est-à-dire la politique de l'armée britannique. Donc la chanson a décrit les descentes des soldats britanniques et les hommes derrière le fil. Il fait référence à ceux qui étaient tenus sans avoir charge contre eux. Maintenant, on va voir que les discussions pour la paix du conflit, pour finir ce conflit entre les deux côtés, on va progressivement avancer vers cette fin. Donc, des événements tels que Sunningdale et aussi la grève de Ulster Workers Council, ça va bien faire une des notions dedans. Donc, c'était dans les années 1973. C'était un grand effort de le gouvernement, encore une fois, du gouvernement britannique, qui était fourni pour trouver une solution politique au conflit. Donc, c'était dans le novembre de même année, un accord s'était même signé entre les deux partis politiques majeurs, c'est-à-dire les nationalistes, SDLP, et the Unionist Party. C'était l'Irlande du Nord, appelé le Sunningdale Agreement. C'était l'accord de Sunningdale. Donc, ce qui contenait cet accord, c'était le partagement du pouvoir entre les nationalistes et les unionistes dans une assemblée régionale et une Council of Ireland pour développer une coopération entre le Nord et le Sud. Mais l'accord a été contré par l'opposition unioniste même, juste après qu'ils avaient voté la coopération. Et ça mène des protestations en mai de 74 avec William Craig en tête. Donc, c'est the Union Walls Work, the Ulster Workers Council, qui ont mené cette grève universelle sur toute l'Irlande, ce qui inclut la centrale électrique, et cause le parti unioniste de se retirer de l'accord. Donc, ils avaient trouvé l'accord, et puis, ils ont cassé l'accord, donc on se trouve toujours au même endroit qu'on était avant the Sunningdale Agreements.
The devil are you?
Parole politique. Tous les jeudis de 11h à midi avec Jake. Seulement sur fréquence Mistral.
Just as I thought.
No!
Who is he anyway?
One of your drones from Sector 7G.
Gotta learn a lesson, no?
Donuts.
Donc, les événements des années de 80. Donc, il y a eu de nombreuses attaques en Irlande du Nord et dans le Royaume-Uni qui ont symbolisé les années 80. C'était notamment l'attentat de Brighton de 1984. Donc, c'est un attentat qui visait le Premier ministre britannique, c'est-à-dire celui qui était en tête de l'armée britannique, symbole de la Grande-Bretagne, c'est Margaret Thatcher, ainsi que son cabinet, pendant la conférence conservative à Brighton le 12 octobre 1984. Donc, Thatcher, elle va même échapper juste de justesse à l'engin explosif, mais 5 personnes furent tuées dans cet événement, dont 2 membres importants du parti conservateur. C'était l'attentat, c'était du côté de IRA, mais bien sûr, ils n'ont pas réussi à avoir la cible. Donc, ça montre encore une fois la puissance de l'IRA qui vont encore une fois chercher à attaquer ce qui représentait le Grande-Bretagne, ce qui représentait Margaret Thatcher. Donc, on voit aussi bien continuer ce chemin vers la fin du conflit. Donc, on cherche vers les années la fin des années 80, pendant cette campagne armée de l'IRA, le côté politique Sinn Féin, mené depuis 1983 par Gerry Adams, qui va chercher une négociation pour finir le conflit. Mais, comme Adams avait prédit, ça prendrait un long chemin pour arriver à cette fin.
Oh, farewell, the streets of sorrow. And farewell, you streets of pain. I'll not return to feel more sorrow.
sorrow, nor to see more young men slain. Through the last 6 years I've lived through terror, and in the darkened streets the pain. Oh, how I long to find some solace. In my mind I curse the strain. So farewell, you streets of sorrow, and farewell, you streets of pain. No, I'll not return to feel more sorrow, nor to see more young men slain.
Donc ça c'est The Pogues avec Streets of Sorrow, aussi connu sous le nom Birmingham Six. Et c'est une chanson politique et très controversée. C'était dès qu'il le chantait même sur la en live sur le Ben Elton Channel 4 show. C'était le 15 avril 1988. Il le chantait et puis au milieu du chanson, ils l'ont coupé pour passer aux publicités avant la fin. Donc c'était reçu comme la chanson de McCartney, comme on avait parlé tout à l'heure, Give Ireland Back to the Irish. Donc c'était aussi reçu avec interdiction de la part de Independent Broadcasting Authority. Allons-y maintenant au Good Friday Agreement. Donc c'était l'accord de Good Friday le vendredi 10 avril 1998. Donc c'était à 17h30. Que George Mitchell déclare que les deux gouvernements et les partis politiques en Irlande du Nord ont trouvé un accord, l'accord de Belfast. Donc, elles contiennent des choses, par exemple, comme une assemblée nord-irlandaise, des institutions qui croisaient les frontières entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, la République qui se retire sa vouloir des 6 départements nord-irlandais, et aussi des propos pour diminuer les armes paramilitaires, le futur du gendarmerie nord-irlandais et la libération des prisonniers paramilitaires. Donc en décembre, l'accord vient en force et les politiciens du Nord prennent la siège dans l'Assemblée en Stormont. Mais après cette date, ça ne serait pas très très facile quand même. Il y avait des désaccords sur des choses, par exemple comme des marches unionistes annuelles, par exemple Orange Order Marches, et aussi les attaques des paramilitaires qui ne sont pas du tout d'accord avec ces accords, et donc ils les prennent pas en compte et font comme ce qui était au passé. Undertones, It's Going to Happen. Donc c'était un groupe formé en Derry, Londonderry, en 1974. Donc même malgré l'environnement politique qu'ils ont grandi dedans, même la plupart de leur matériel n'était pas vraiment sur le conflit nord-irlandais, mais bien sûr cette chanson c'était dessus. Ils préfèrent plutôt des thèmes tels que l'adolescence, les problèmes des ados, les prises de cœur, etc. Donc, on a vu, il y avait un accord qui était formé. Maintenant, concentrons sur l'état présent des affaires dans l'Irlande du Nord. Donc, il y a l'Assemblée qui a vu des alignements politiques extrêmes en mars 2007. C'était important parce que c'était le loyaliste du DUP, Ian Paisley, donc irlandais, qui est devenu Premier ministre, et le Sinn Féin, Martin McGuinness. Donc, c'est les protestants et les chrétiens, les représentants des deux côtés, qui se forment un gouvernement très stable. Donc c'est très important. Et ça montre à quel point l'Irlande du Nord a fait des avancements depuis les 1970. Il y avait aussi en 2010 le décommissionnement des armes de la part du groupe unioniste Ulster Defence Association et le groupe nationaliste Irish National Liberation Army pour descendre un peu les attentats qu'on a vus pendant les années avant. En 2011 même, il y avait la reine Elisabeth II qui visite l'Irlande. C'était la première visite de famille royale depuis 1911. Donc c'est 100 ans après, c'est très important. Et en 2012, la reine Elisabeth II a serré la main de Sinn Féin's commander. Le chef, c'était Martin McGuinness aussi. Et en 2014, Michael D. Higgins visite le Royaume-Uni où il va déclarer l'amitié entre l'Irlande et le Royaume-Uni pour des relations beaucoup plus proches. Ceci dit, il existe toujours des événements qui réallument le conflit aujourd'hui et ça reste quand même un sujet très contesté dans l'Irlande du Nord qui a vu des meurtres le plus récemment en 2015.
One more time up on Cypress Avenue, I call one more time up on Cypress Avenue. And I'm conquered in a car seat, nothing that I can do. I may go crazy.
Et ça c'est la chanson de Van Morrison, ça s'appelle Cypress Avenue. Et c'est la fin de l'émission malheureusement. Donc, merci de m'avoir rejoigné pendant cette heure sur Fréquence Mistral. Si les émissions vous intéressent, il y a encore 4 épisodes qui sont sur le site web de Fréquence Mistral, comme par exemple l'élection présidentielle américaine 2016, ça c'était la semaine dernière. On avait aussi fait la guerre de Vietnam, le mouvement des droits civiques des Afro-Américains. Donc tout ça, c'est sur le site web de Fréquence Mistral. Pour les trouver, il suffit juste de mettre la barre de recherche Jake dedans, et ils sont tous là pour votre écoute. Donc, le jeudi prochain de 11h à midi, je serai encore avec vous en direct avec une émission sur les Jeux Olympiques. Donc, ça serait jeudi prochain de 11h à midi. Merci encore à Nathalie pour ses compétences techniques. Je vous souhaite tous un très bon fin de semaine, une très bonne semaine prochaine, et puis je vous revois tous le jeudi. Bonjour, c'est Jake. Retrouvez-moi tout l'été en direct sur Fréquence Mistral. Les jeudis de 11h à midi pour l'émission de Parole Politicale.